En ce 25 octobre, on peut célébrer, si l'on veut, Erasme. En fait, ce n'est pas l'anniversaire de son décès aujourd'hui. Erasme, cet homme exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, ce très grand humaniste attaché profondément au christianisme, prêtre d'ailleurs et moine, et dont on a dit souvent pique-pendre et sans raison ou parce qu'on n'a pas compris vraiment ce qu'il avait écrit, particulièrement dans l'Éloge de la folie, ouvrage extrêmement important qu'il avait dédié à Saint Thomas More. Ici Raymond Beaugrand-Champagne. Erasme est né en Hollande en 1469 vraisemblablement, à une date que discutent les érudits. Je ne serais pas surpris pour ma part qu'il soit né un 2 juin, car le 2 juin, c'est la fête de Saint Erasme, et ce prénom n'était pas très répandu. Il a été baptisé Erasme, parce qu'il y a eu un Saint Erasme qui était martyr et qui est mort vers l'an 303. Erasme aurait été cet évêque en Campanie, donc au 3e siècle, et je vous raconte en deux mots la vie de son patron, c'est son patron quoi. Un ange avait conduit ce saint Erasme en Campanie pour qu'il meure de ses blessures. En effet, il avait exercé d'abord l'épiscopat en Syrie, vraisemblablement donc un Syrien. Mais la persécution de Dioclétien, l'empereur, l'avait forcé à se réfugier dans la montagne où il a vécu en ermite. On dit qu'il était nourri, lui aussi, par un corbeau. Ça arrive souvent dans les vies de saints à cette époque. Mais on a découvert sa cachette et on a pensé à le faire périr. Et puis, on l'a battu, mais il n'est pas mort. On a essayé de le brûler, et ça n'a rien fait. On a essayé de le faire mourir de faim, et ça n'a pas marché. Alors un ange l'a mené dans la province romaine d'Illyrie, raconte ces vieilles légendes, où il a conquis au Christ de nombreuses personnes. Et finalement, retrouvé par la police, il a été supplicié de nouveau. C'est alors que l'ange là, l'a amené en Campanie. On dit que le pape Saint Grégoire le Grand a signalé que ses reliques se trouvaient encore au 6e siècle dans la cathédrale de Formia, mais les Sarrasins, les musulmans, ont détruit la ville en 842 et on a transporté, dit-on, les ossements à Saint Gaët, et puis il est resté le patron de la ville de Gaët. Je vous fais grâce du reste. Donc, notre Erasme à nous est né en Hollande et sa mère était la fille d'un médecin. Son père, Gérald, ne vous scandalisez pas, était prêtre. C'est rien d'extraordinaire à l'époque où il y avait beaucoup de décadence. Il y avait beaucoup de concubinage de la part des prêtres. C'est un fait qu'on peut pas nier. Et on sait que le Concile de Trente, près d'un siècle plus tard, va s'efforcer de réformer le clergé. Le Concile de Trente, c'est une ville en Italie, évidemment, tout le monde le sait, hein, où s'est tenu ce fameux concile de 1545 à 1562. Erasme, qui avait des demi-frères, a beaucoup souffert de ses origines plus tard, lorsqu'il sera orienté par un tuteur, finalement, vers la vie monastique. Erasme, c'était donc son nom de baptême, et plus tard, en 1496, lorsqu'il va prendre, on ne sait pourquoi, le nom, le prénom de Didier, Desiderius, en fait, le désiré, vous voyez. C'était un enfant, comme on disait autrefois, adultérin, et il a pris le prénom de Désiré, comme pour couvrir cette gêne qu'il avait. Et le nom de Erasmus, Erasme, est devenu son nom de famille. Les premières études se sont faites à Gouda, à Deventer, en Hollande, chez les frères de la vie commune, qui était très connue à l'époque, cette congrégation. Et après la mort de ses parents, son tuteur l'a envoyé dans une école, qui n'est pas très bonne, toujours en Hollande, à Bois-le-Duc. Donc ça s'appelle pas Bois-le-Duc en hollandais. Et puis là, on le décide d'entrer au monastère de Steyr, chez les Augustins. Il prononce ses vœux à 19 ans, en 1488. C'est bien jeune, hein? Sa correspondance, à cette époque-là, manifeste aucune répugnance de la vie monastique, ni non plus de ferveur religieuse. Il y est assez heureux, finalement. Il dira plus tard, d'ailleurs, qu'il a été fourvoyé en entrant dans le monastère, mais il en garde quelque chose de très profond en lui, parce qu'il va quitter le monastère. Il va devenir prêtre en 1492, au moment de la découverte de l'Amérique, par l'archevêque d'Utrecht, et ce n'est pas par n'importe qui. L'archevêque d'Utrecht, c'était Henri de Gand, fils de Maximilien d'Autriche. Or, la vie d'Érasme va devenir une vie de vagabond dans un sens. Mais c'est pas de vrai vagabond. Non, c'était un grand voyageur. Il aurait pu facilement se fixer dans son monastère, où les autorités l'aimaient beaucoup et n'ont cessé de le rappeler jusqu'à ce qu'il obtienne une dispense définitive que va lui accorder le pape Léon X qui était un humaniste comme lui. Son premier mécène, c'est l'évêque de Cambrai, Henri de Bergen, et il part avec lui l'année suivante. Il est tout jeune prêtre, il a 24 ans, comme secrétaire. Il ne restera pas longtemps auprès de cet homme. Sans noter en détail tous les lieux où il séjourne, parce que ça pourrait être très long, on peut mentionner qu'il passe à Paris, au collège de Montaigu. Ça va lui répugner, ce collège. Il est là de 1495 à 98, mais grâce à un autre mécène, un anglais celui-là, Lord Montjoie ou Mountjoy. En fait, c'est Mountjoy. Il gagne l'Angleterre en 1499. Et là, à Londres, il se lie avec nul autre que Thomas More, le futur chancelier d'Henri VIII. Et avec John Colet, le doyen de Saint-Paul, qui était un homme admirable, un prêtre catholique remarquable, qui lui fait lire Pic de la Mirandole. Il faudrait bien faire des émissions sur tous ces gens-là. Et ça l'oriente vers l'édition critique du Nouveau Testament. Une édition très intéressante pour l'époque. Et au printemps de 1500, il a donc 31 ans, Érasme est à Paris. Il publie ses adagias, des recueils de proverbes, et il va expliquer comme ça 4000 proverbes classiques. Et c'est un bûcheur. Très jeune, il est déjà un bûcheur. Il travaille, c'est absolument phénoménal, c'est un génie. L'année suivante, en juillet, en 1501, il passe quelque temps dans un château, le château de Tournehem, en Hollande, avec Bath, qui sera toujours son ami. B-A-T-T. Il faudrait aussi parler de lui encore. Il se met à l'étude du grec d'arrache-pied. Une étude héroïque, comme il le dit plus tard. À l'automne de cette même année, 1501, il est à Saint-Omer, chez le prieur de Saint-Bertin, puis là, il rencontre le théologien Jean Vitrier, en 1519, qui lui donne d'écrire Manuel du soldat ou militant chrétien. C'est, pour ainsi dire, un livre qui est le pendant, si on peut dire, de l'imitation de Jésus-Christ de Thomas Kempis. Et c'est un précurseur, ce livre, de l'introduction de la vie dévote de saint François de Sales. Comme vous voyez, c'est un spirituel. C'est pas vraiment un théologien, Érasme, c'est un spirituel. On l'a pas assez dit, je trouve. Il faut insister là-dessus. Car Érasme a été l'élève des frères de la vie commune, il a été novice et prophète chez les Augustins, le même ordre qui sera celui de Luther, oublions-le pas, hein. Ils seront des ennemis acharnés, les deux. C'est tout imprégné, ça, de ce qu'on appelle la devotio moderna, la dévotion moderne, si vous voulez. Une nouvelle manière d'envisager la pratique chrétienne, qui aura une grande influence sur tous les spirituels, surtout au XVIIe siècle avec l'école française, Oh, à l'école, dans cette école de spiritualité française, il y a tellement de gens comme Condran, Bérulle, etc. Il faudrait que je vous parle de tout ce monde-là. Bérulle s'en vient, je suis en train de le préparer. À 34, 35 ans, donc dans les années 1503, 1504, il est à Louvain et à Anvers. Entre-temps, son prieur le rappelle au monastère de Stein, il est entré. Mais il obtient de poursuivre ses études et à la fin de 1504, il est à Paris et de là, il part l'année suivante pour l'Angleterre où il retrouve d'anciens amis et de nouveaux amis dont John Fisher, l'évêque de Rochester, vous connaissez, Saint John Fisher, hein, qui a été malheureusement exécuté sous les ordres d'Henri VIII. John Fisher, Saint John Fisher, le présente à des grands humanistes. Je vous fais grâce des noms. On en parlera peut-être un jour. Et en juin 1506, il est de nouveau à Paris. Comme vous voyez, il voyage beaucoup. Il est en route vers l'Italie. Et là, il passe à Lyon et à Turin, où il arrive en 1506. Et c'est là qu'il obtient son doctorat en théologie honoris causa. Il assiste le 11 novembre de cette année-là, là, à l'entrée triomphale à Bologne du pape Jules II. Et qu'il critiquera violemment dans son pamphlet Julius Exclusus Ecceli, c'est-à-dire Jules écarté du ciel, qu'on lui a attribué, mais dont il a toujours refusé la paternité, mais il semble bien que ce soit de lui, où il fait une description tragique et terrible du cortège du pape Jules II avec ses armées, et parce que Jules II était un pape guerrier, c'était terrible, c'est terrible de penser qu'on a eu des papes comme ça, épouvantable. Il ne s'est pas gêné pour dire sa façon de penser. C'est à partir de ça qu'il s'est fait une mauvaise réputation. On l'a même accusé d'être un luthérien, etc. Dans ce temps-là, c'était une accusation très grave chez les catholiques. Et cette année-là, où il a vu le pape, Jean-Jules II, à Bologne, eh bien le pape, pour chasser les Français d'Italie, a fait la guerre à la ville de Bologne, qu'il a vaincue. Et pour lui, c'était comme un triomphe. Et pendant cette guerre, Erasme s'est réfugié à Florence, à Rome, où il sera ensuite, il se lie avec le cardinal Jean de Médicis. C'est le futur Léon X, un pape humaniste intéressant, avec plusieurs cardinaux humanistes d'ailleurs, qui vont chercher en vain à le retenir dans la ville éternelle parce qu'ils apprécient Erasme. En 1507, Erasme est à Venise, là, chez un imprimeur, et il publie beaucoup. Il traduit, il étudie Plaute, Terence, Sénèque, Platon, Plutarque, Pindare. Imaginez, c'est un génie. Il s'essaie à l'hébreu et à l'araméen, mais il n'aura jamais la même aisance qu'en grec et en latin. Erasme quitte Rome finalement en juillet 1509 en direction de la Suisse. Il passe les Alpes par la route antique, la vallée de Cavenna et le col de Septimaire. C'est la route classique par laquelle passent les armées allemandes ou impériales lorsqu'elles descendent en Italie. Bien oui. Et en chemin faisant, bien, Erasme, à cheval, compose quoi? L'éloge de la folie. Qu'il écrira en quelques jours, à son arrivée à Londres, chez Thomas More, à qui il va le dédicacer. Henri VIII, qu'Erasme a vu enfant lors de ses premiers séjours, est roi d'Angleterre maintenant. L'archevêque Warham, qui est chancelier du royaume, tout ce monde est catholique à cette époque, lui a promis un bénéfice ecclésiastique, dont Erasme aurait bien besoin parce que il est plutôt pauvre depuis sa jeunesse. Alors l'archevêque Warham va lui procurer en 1512 le rectorat d'Aldington dans le Kent. Et ça va devenir pour lui une pension annuelle, ça va l'aider à vivre. Et en 1511, l'éloge de la folie est édité à Strasbourg. C'est la première d'une série innombrable d'éditions qui feront la réputation d'Erasme jusqu'à nos jours, mais que par prudence, surtout vers 1520, ne cessera pas de répudier encore parce que c'est un pamphlet. Un énorme pamphlet magnifique. Et en 1512, ben, Erasme se voit attribuer une chaire à Cambridge où il enseigne le grec, la théologie, et c'est encore en Angleterre qu'il travaille à l'édition critique du Nouveau Testament. Une édition qui lui a paru indispensable depuis qu'il s'est rendu compte de la faiblesse de la traduction de la Vulgate. Et à cette même époque, s'ouvre à Rome le 5e concile de Latran, qui devait encore légiférer sur le célibat des clercs, comme vous voyez, pour essayer de réformer le clergé, et essayer une remise en ordre. Mais ça n'a pas de suite. C'est ouvert sous Jules II, ce concile. Ça va se terminer sous Léon X, ce pape humaniste. Et nous verrons tout à l'heure l'évolution d'Erasme, et je vais vous parler un peu de l'éloge de la folie. Vous savez que il avait la plume effilée, notre Érasme. Il s'est adressé au pape en lui parlant un peu à la troisième personne. Il disait au pape Léon X, c'est ce qu'il écrivait, Léon X, il l'appelle comme ça, Léon X réussira s'il s'efforce d'imiter la vie et le cœur de Pierre et de Paul sous les auspices desquels il règne. C'est une façon sympathique d'écrire, hein, c'est pas méchant. Mais au milieu des troubles que Luther soulève en 1517, Érasme use de tout son prestige, un prestige qui recouvre toute l'Europe. Il veut rappeler la cause des malheurs, oui, la cause des malheurs de l'Église, car il ne voit rien d'autre que de réclamer sévèrement des réformes. Comme le Concile Vatican II l'a fait, et comme nos synodes, un peu partout, comme le synode de Montréal, essaient de le faire, ce sont des formes d'action pour changer les choses. Si Érasme était un dilettante, comme beaucoup de gens ont prétendu, il aurait été facile pour lui de se taire et de continuer des recherches et des études. Et pourtant, les textes sont bien éclatants. On voit là toute l'âme d'Érasme, qui est remuée par le spectacle de la décadence de l'Église au début du XVIe siècle. Cette décadence qui a bouleversé une partie de l'Église et qui s'en est détachée, mais qu'on appelle les protestants. Au surplus, la lucidité d'Érasme est pénétrante. Elle se fait à la clarté du Nouveau Testament. Il réaffirme l'idéal qui doit animer tous les prêtres, depuis le pape jusqu'au simple prêtre. Et déjà, c'est dans l'éloge de la folie toujours qu'il a fustigé l'avarice du clergé. Il n'y va pas de main morte, mais ça rappelle certains pamphlets qui circulaient au moment du Concile Vatican II dans les rues de Rome et qui se sont répandus un peu partout en France et qui ont été endossés par beaucoup de catholiques avertis, souhaitant une profonde réforme de notre Église, non pas parce qu'on la déteste, mais parce qu'on l'aime, justement. Parce qu'on l'aime. N'oublions pas que les cardinaux, au début du Concile, portaient des traînes de 32 pieds de long. Ces hommes qui souvent étaient des saints, mais ils étaient affublés de façon insensée, ce qui déplaisait à la plupart, sinon à tous. Mais ils étaient pris dans un engrenage, et c'est ainsi qu'il y avait toutes sortes de choses insensées et invraisemblables, y compris cette étrange tiare que portait le pape. C'est pas facile pour un saint pape de porter une tiare. C'est très, très humiliant, dans un sens, quand le cœur du pape est semblable à celui de Jésus-Christ. Il écrivait, notre ami Érasme, les papes si diligents, moissonneurs d'argent, il y avait les ventes des indulgences dans le temps, les papes si diligents, moissonneurs d'argent, renvoient les travaux apostoliques aux évêques. Ceux-ci les renvoient aux curés, et ceux-là les renvoient aux vicaires, et les vicaires aux frères mendiants. Et les frères mendiants s'en débarrassent sur ceux qui savent tondre la laine des brebis. Quel rapport, en outre, y a-t-il entre le goût de la guerre et la mission épiscopale? Je vous en ai parlé tout à l'heure en parlant de Jules II. En Allemagne, les évêques abandonnent, dit-il, le culte et les missions, les cérémonies, et font ouvertement les satrapes, c'est-à-dire les soldats, si vous voulez, et croiraient indignes de l'épiscopat de rendre à Dieu ailleurs que sur un champ de bataille leur âme guerrière. Et Jules II, d'ailleurs, le pape, qui est terriblement belliqueux, c'est un des modèles les plus tristes, hein, de ces évêques, couverts de cuirasses. L'immoralité, on l'entend bien, précède et en tout cas accompagne ces déviations-là. Et l'éloge de la folie d'Érasme a ironisé l'interprétation inattendue de l'Évangile que leur vie laïcisée avait faite, la vie laïcisée de ces papes et de ces évêques. Et c'est plusieurs papes au XVe siècle qui ont été comme ça. Il écrivait « Faire du miracle est un vieil usage désuet qui n'est plus de notre temps. Enseigner les peuples est fatigant. L'explication de l'écriture appartient aux écoles. Prier semble oiseux. Verser des larmes est affaire des malheureux et des femmes. Vivre pauvrement, c'est bien méprisable. Subir la défaite est une honte indigne de celui qui admet à peine les plus grands rois à baiser ses pieds. Mourir, enfin, est chose dure. Et sur la croix, ce serait infamant. » Il est d'un sarcasme à la fois terrible. Mais aujourd'hui, on peut se permettre ces choses-là beaucoup plus facilement. C'est dur, mais il y a des saints qui ont écrit aussi ces choses-là et qui les disent aujourd'hui, ou du moins des prédicateurs, des écrivains qui ne se gênent pas pour écrire ces choses-là tout en étant de fervents catholiques, comme Erasme. Erasme ne se contente pas d'ironiser, ni de critiquer, mais des pages entraînantes où il exalte la grandeur réelle, la grandeur profonde de la hiérarchie. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on peut dire que nos chefs ecclésiastiques n'y trouveraient tous qu'un soutien de leur ferveur dans les textes d'Erasme. Si les souverains pontifes, qui sont à la place du Christ, écrit Erasme, s'efforçaient de limiter dans sa pauvreté ses travaux, sa sagesse, sa croix et son mépris de la vie, s'il méditait sur le nom de pape qui signifie père et sur les titres de très saints qu'on leur donne, eh bien c'est ce que nous avons avec tous nos derniers papes. Ce sont des hommes comme ça, comme Erasme les souhaitait. Il parle des cardinaux. Que signifie ce rocher sinon la parfaite pureté des mœurs? Cette robe de pourpre sinon le plus ardent amour de Dieu? C'est pour ça que les cardinaux portent du rouge. Je continue. Ce vaste manteau aux larges plis, qu'est-ce que ça signifie? Sinon l'immense charité qui doit se répandre sur tous et subvenir à tous les besoins, instruire, exhorter, consoler, corriger, avertir, mettre fin aux guerres, résister aux mauvais princes, et sacrifier généreusement pour le troupeau du Christ non seulement ses richesses, mais son sang. C'est pour ça que c'est rouge. Alors, en lisant ça, ça ressemble beaucoup au texte du pontifical quand on consacre les évêques. Sur les évêques, il dit « Qu'un d'entre eux, pourtant, réfléchit s'il verra que son beau rocher blanc comme neige est l'emblème d'une vie sans tache. » Et ça, c'est intéressant que sa mitre, aux deux cornes réunies par un même nœud, suppose en lui la connaissance égale et approfondie du Nouveau et de l'Ancien Testament. Que les gants dont l'évêque couvre ses mains indiquent qu'il doit être pur de toute souillure pour administrer les sacrements. Que sa crosse pastorale symbolise la vigilance sur son troupeau. Que la croix portée devant lui signifie la victoire sur toutes les passions humaines. Comme on voit, il avait une foi profonde. Quant au prêtre, il écrit « La tonsure ne leur fait-elle pas songer que le prêtre doit être affranchi de toutes les passions humaines et ne s'attacher qu'aux choses célestes hein? ?» Les prêtres portaient une tonsure, je l'explique pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est une... ils avaient le haut de la tête rasé. Alors, Erasme est réaliste, il entend que les prêtres, les clercs en somme, ne déserte pas les premiers rangs des chercheurs et des vrais savants. Pour lui, l'Église n'est pas une momie. L'Église, c'est la mère la plus vivante et la plus féconde. Or, pour l'Église, la vie, l'éternelle jeunesse se trouve en Jésus-Christ. Et déjà, on entend éclater l'impérieuse phrase pascalienne, n'est-ce pas? Il écrit, « Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. » Nécessaire ainsi le retour à la fraîche pureté d'écriture. Le vrai travail, c'est quoi? C'est de posséder exactement le texte puis de le comprendre. Il écrit, s'il m'est arrivé de m'en prendre à des théologiens c'était à ceux qui, éblouis par de vaines ratiocinations, à perte de vue, oubliaient qu'il faut tout ramener à la révélation de Jésus-Christ, comme on voit Erasme est un vrai catholique. Ces gens, ironise toujours l'auteur de l'éloge de la folie, là, jouissent d'eux-mêmes et se congratulent nuit et jour, absorbés par d'aimables bouffonneries qui ne leur laissent même pas le temps de feuilleter une fois l'Évangile ou les Épîtres de saint Paul. Alors on verra tout à l'heure encore quelques petits passages de l'éloge de la folie et nous accompagnerons cet homme qui, dans un sens, révolté à une époque de révolte, est toujours demeuré attaché profondément à l'Église catholique. Alors Erasme, c'est à Bâle qu'il édite l'éloge de la folie, qu'il a dédié à Thomas More en jouant sur les mots, parce que Moria veut dire folie en grec, Thomas More, Moria. Et cet ouvrage, puis les colloquia qu'il va publier plus tard, ont eu une influence considérable sur l'époque. Et c'est à ce point que Luther a pensé que Erasme était de son côté. Mais Erasme ne se fixe pas à Bâle. Au début de 1516, il est de retour aux Pays-Bas. Bâle, ce n'est pas, c'est en Suisse. Et il va publier l'éducation du prince chrétien. Et puis, il reçoit finalement la dispense de ne plus porter l'habit de son ordre. En janvier 1517, c'est là que cette dispense arrive de Rome et Léon X, le pape, lui assure le maintien de ses bénéfices malgré sa naissance illégitime. Il a 48 ans, bien oui, une naissance illégitime, je vous ai dit, c'était le fils d'un prêtre, pouvait empêcher des choses comme ça. On était bien étranges, on avait de drôles d'idées. L'Église ne cesse de se transformer, de se réformer et sans cesse de s'améliorer. Erasme se fixe finalement à Louvain. Luther proclame ses 95 thèses, n'est-ce pas? Et selon certains auteurs les plus sérieux, il ne les a pas affichées contrairement à ce que l'on a prétendu. Et ce que l'on a répandu aussi. Mais enfin, c'est une autre affaire, ça. Erasme est au sommet de sa carrière. Et il a fustigé les scandales que donnent les hommes d'Église. Dans son éloge de la folie, il dit « Nous baisons les souliers des saints et leurs sales suaires, mais nous négligeons leurs livres qui sont leurs plus saintes et leurs plus efficaces reliques. » Mettons-nous bien ça dans la tête, nous qui écoutons cette série d'émissions sur les saints ou les gens qui ont vécu avec cœur, que ce n'est pas tout de vénérer des reliques, d'avoir une statue d'un saint. Encore faut-il lire leurs livres quand ils en ont écrit, les méditer et les imiter les saints. Erasme veut rester fidèle à l'Église visible. Il n'a aucune intention de réformer contre l'Église. Il veut réformer avec elle. Et pour lui, le concile qui s'annonce, il paraît être la voie normale. En 1519, Luther a été condamné par la faculté de théologie de Cologne et par celle de Louvain. Alors on voudrait qu'Erasme s'en mêle. Il refuse. Pour lui, du reste, Louvain, c'était le bastion de la théologie réactionnaire et Erasme demande la protection du pape Léon X, une protection qu'il est sûr d'obtenir. Et de nouveau, la faculté de Louvain va demander l'intervention d'Erasme l'année même où Léon X lance sa fameuse bulle « Exurge Domine » contre Luther. En octobre 1521, Erasme assiste au couronnement de Charles Quint à Aix-la-Chapelle et en avril de l'année suivante, eh bien, la neutralité d'Erasme envers Luther. Mais ça fait l'objet de critiques à Louvain. Le pape aimerait bien qu'il intervienne contre Luther. Le climat de Louvain lui devient malsain à Erasme, au propre et au figuré. Parce qu'Erasme commence à être malade. Il s'installe à Anderlecht, où il retrouve la paix. La santé, grâce à un meilleur climat, il envisage alors d'écrire contre Luther, mais ce projet n'aboutira qu'en 1524, lorsqu'il écrira des libéraux arbitrio, vous comprenez, hein? Du libre arbitre, c'est toute la querelle, hein? Où il atteint la réforme à sa racine. c'est le problème crucial, les protestants insistant sur la liberté que l'on a d'interpréter la Bible sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Les catholiques insistent sur une interprétation qui soit fidèle à la tradition. Car dans l'Église catholique, il y a l'Écriture, la Bible et la tradition. Les anglicans de la Haute Église insistent aussi là-dessus. Les orthodoxes aussi. Nous sommes en bonne compagnie quand même. Erasme est de nouveau appelé finalement à Bâle pour corriger des épreuves du Nouveau Testament. Il va rester 8 ans à Bâle. Et durant ces années-là, bien, il y aura une production fantastique. Il est dit nombre de pères de l'Église en latin, Cyprien, Hilaire, Jérôme, Ambroise, Augustin, Irénée, Jean Chrysostome, etc. C'est vraiment un être exceptionnel. Et ces années voient aussi sa polémique avec Luther. Et alors, Hans Holbein termine une seconde série de portraits d'Erasme, devenu vieux. Il a atteint 62 ans. Alors, Erasme est malade depuis longtemps de la pierre, la lithiase rénale. Il n'en a pas moins poursuivi pour autant son travail et ses voyages, et quand on sait les difficultés et les peines des déplacements à cheval, et quand on dénombre les traversées du continent en Angleterre, Erasme avait toujours le mal de mer, on comprend quel courage il lui a fallu. En juin 1535, il revient à Bâle. Il est appelé par Froben le Jeune pour veiller à l'impression de ses ouvrages, c'est un grand éditeur. Et le 22 juin 1535, son ami John Fisher a été décapité. Et le 6 juillet, quelques jours plus tard, c'était le tour de Thomas More. L'un et l'autre sont les victimes d'Henri VIII. Ils ont tous les deux été canonisés par l'Église catholique. À nouveau, le pape lui a offert le chapeau de cardinal. C'est pour vous dire comme il était attaché à l'Église catholique. Les gens qui s'imaginent qu'il était un ennemi de l'Église et que les papes et les cardinaux, se faisant dire leurs 4 vérités de façon très crue dans l'éloge de la folie, lui en ont voulu? Non, admirable Église où les gens même qui sont des pécheurs, mais qui sont dans la haute hiérarchie, savent reconnaître leur tort et la sincérité d'Erasme. Étrange Église, mais belle Église quand même, même dans ces moments les plus pénibles. Que j'aime cette Église. Il écrit un commentaire en 1535 sur la pureté de l'Église du Christ, qu'il dédie d'ailleurs, chose amusante, à un humble douanier rénan, en reconnaissance d'un service rendu lors du voyage de Bâle à Fribourg. Et ce sera sa dernière œuvre. En février 1536, il met en ordre ses affaires. Il fait de nombreuses donations à la famille de l'éditeur Froben, aux pauvres et aux malades. Mais sa maladie le mènera jusqu'au mois de juillet. Il meurt dans la nuit du 11 au 12 juillet 1536, à 67 ans. En invoquant le nom de Jésus et sa miséricorde dans sa langue natale en néerlandais. Erasme, et cette fin, cette mort l'indique, est toujours resté un croyant qui n'a jamais dévié de la foi. Il a toujours été un prêtre très digne, bien qu'il n'ait célébré la messe que de rares fois, ce qui était sans doute la coutume des prêtres humanistes ou des humanistes prêtres de son temps. Autre temps, autre mœurs, hein? Pas toujours les mêmes coutumes. Hein? Erasme n'a jamais accepté qu'on l'ait fait moine malgré lui, et il n'a que peu d'estime pour ce genre de vie très décadent dans son temps. Il a écrit d'ailleurs des choses que je n'ose guère vous lire, sur le ritualisme des moines, sur l'assèchement de la vie monastique, sur le manque d'âme qui habite une grande partie des moines de son temps. Il est assez sévère. J'ai tenu à m'étendre assez longuement sur une vie qui est pleine d'événements puis d'œuvres qui ont été suscitées par les circonstances.
Il a vu de ses yeux à Bologne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et à Rome, la décadence de la chrétienté, qu'il a décrit dans ce livre, ce pamphlet dont je vous ai parlé, Julius Exclusus, puis dans l'éloge de la folie. C'est parce qu'on l'a fait conseiller de Charles Quint qu'il écrit Institutio Principis, pour l'éducation d'un prince. S'il va de Hollande en France, puis de là en Angleterre, en Italie, en Allemagne, c'est autant pour assurer son indépendance et pour garantir sa vie matérielle que pour se fixer au plus près des imprimeurs de son œuvre. Il veut corriger et vérifier les épreuves et tout. On a peine à réaliser au siècle défaire l'imprimerie, aujourd'hui, la révolution qui est en marche à ce moment-là. La révolution de l'imprimerie dans son temps, qui, l'imprimerie naissante, c'est comparable à celle aujourd'hui de la cybernétique puis de l'informatique. Hein? Moi, je comprends rien là-dedans. Faudrait que j'y me mette avant de mourir, grand Dieu. Mais Erasme vient au moment où il faut saisir l'instrument qu'est l'imprimerie pour la mettre au service de l'humanisme et de l'évangile qui ne se sépare pas dans son esprit. Évidemment, le latin est encore, au moins pour un siècle, la langue des lettrés. Le latin assure à sa pensée une diffusion européenne. Erasme veut un latin châtié. Il aime cette langue. C'est un cicéronien, il aime Cicéron. Voilà quelqu'un d'autre dont il faudrait peut-être parler. Il assure à sa pensée une diffusion européenne. Erasme, qui il s'applique si bien à l'écrire, d'ailleurs, cette langue latine, qu'il fait l'admiration des humanistes de son temps. Et les humanistes s'efforcent, eux, de rivaliser avec lui. Et par l'influence qu'il exerce sur tous les milieux, dès les premières années du XVIe siècle, et même sur l'empereur, Charles Quint, sur les rois, les princes, les hommes d'église, sans excepter les papes et les laïcs, mais Erasme, qui a une influence énorme, peut être à bon droit reconnu, non seulement comme un citoyen, mais comme l'un des pères de l'Europe. Oui, l'un des pères de l'Europe. Ce moine pauvre et vagabond, mais Erasme était en effet à l'origine moine de Stein, Augustin, du même ordre que Luther, je vous l'ai dit, mais il aura exercé l'influence la plus considérable, dit-on, qu'un homme de lettres ait jamais exercé en Europe. Il est un précurseur de l'esprit moderne. Et le fond même de la pensée politique d'Erasme, c'est quoi? Tout simplement l'évangélisme. Il y a des gens qui se vantent d'être des catholiques évangéliques, mais en voilà un. Et le pape est un catholique évangélique. Et nous sommes tous des catholiques évangéliques quand on adhère à l'Évangile du fond de son cœur. Et nous, au sein, dans l'Église catholique, sont des catholiques évangéliques. Et pour lui, pour Erasme, la réforme des États passe d'abord par la réforme des mœurs, ou des mœurs. Et l'on ne peut réformer les mœurs sans référence à l'Évangile. Il y insiste souvent, il le répète souvent. Erasme est un humaniste. Et pour lui, la véritable sagesse, c'est la possession des véritables biens qui sont spirituels. Aussi pour lui, toute la philosophie revient au christianisme et à la pratique des vertus que prône l'Évangile. Erasme est un humaniste. Je vous l'ai dit. Un humaniste sérieux. Il écrit à Charles de Brabant, futur Charles Quint, affermis ton cœur, et préfère naître comme et juste plutôt que prince au prix de l'injustice. Charles Quint, d'ailleurs, s'en souviendra. Il va abdiquer l'Empire, conformément au conseil d'Erasme, à la fin de sa vie. Erasme veut que le prince, comme il dit, soit un parfait humaniste, et qu'il n'imite pas les tyrans. Il n'est rien que prise tant Erasme, sinon la paix. On peut dire de lui qu'il est le héros d'un pacifisme inconditionnel. Comme vous voyez, il est à l'avant-garde partout, à cause de l'Évangile. L'Évangile demeurera toujours le livre le plus progressiste qui soit, le plus à l'avant-garde de l'humanité. Et j'insiste pour vous dire que le pape actuel, dans bien des choses qu'on croit être retardataires, comme on le lit dans nos journaux, est à l'avant-garde. On dit que c'est une croisade médiévale contre l'avortement. On dit que le pape actuel fait des condamnations irresponsables du préservatif, etc., etc. on devrait peut-être lire « Plaidoyer pour Jean-Paul II » qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès, sous la signature de Joël Benoît Donorio, D'O-N-O-R-I-O. J'ai l'impression que ce livre, qui est annoncé dans l'Église de Montréal, mérite d'être lu. Je vais me le procurer, « Plaidoyer pour Jean-Paul II » de Jean-Benoît Donorio. Or, Erasme est dans la même idée. S'il critique, c'est qu'il aime. J'aimerais que l'on puisse dire des choses positives en aimant le pape actuel, en critiquant aussi au besoin, mais toujours en aimant. L'homme devrait écouter sa raison, écrit Erasme, car la raison seule lui permettra de se conformer à la nature comme la grâce le relie de surcroît à Dieu. La raison lutte contre les tentations, et les tentations sont en conflit entre elles. La modestie le tire d'un côté, la cupidité l'entraîne de l'autre. En outre, les passions le mènent tour à tour à la colère, l'ambition, l'avidité le déchire, chacun son gré. Alors, il veut vraiment qu'on adhère à Jésus-Christ. C'est ce qu'il demande du fond de son cœur. Il dit que le Christ n'a pas voulu les guerres, n'a pas voulu toutes ces stupidités. En mourant, le Christ a laissé à ses disciples la paix et un commandement, s'aimer. S'attaquant à Luther et aux protestants, il écrit « Celui qui vient rompre l'unité des chrétiens et pourfendre ses frères en Dieu, comment ose-t-il porter le nom de prince chrétien ?» C'était souvent les princes qui entraînaient les chrétiens à se séparer les uns des autres. Les chrétiens n'étaient pas coupables, et même bien des prêtres, qui n'étaient pas tellement instruits, se laissaient entraîner par le prince. Il écrit « Le prince, image de Dieu sur terre, doit imiter la vie paisible de Jésus, qui défendit à Saint-Pierre lui-même de le protéger avec l'épée. C'est vraiment agir en roi que de servir à tous sans nuire à personne. » Et Erasme incite le pape Léon X à réconcilier les rois en louant sa politique de rapprochement entre la France, l'Empire et l'Angleterre. Dans un traité « Dulce bellum in expertis », c'est-à-dire « La guerre est douce à ceux qui n'en ont pas l'expérience », il y dicte des règles pour la paix. Il y en a 6, je vous en les donne rapidement. On pourrait mettre ça en pratique aujourd'hui. Désarmer les antagonismes nationaux. Stabiliser le statut territorial de l'Europe. Fixer l'ordre des successions monarchiques. Enlever aux princes le droit de déclarer la guerre. Organiser l'arbitrage dans les conflits. Mobiliser en faveur de la paix toutes les forces morales. Mobiliser en faveur de la paix toutes les forces morales. Je vous ai parlé du débat qu'il y a eu entre Luther et lui, mais ce débat se situe autour de l'idée que l'un et l'autre se font de la liberté. Luther prend parti contre l'humanisme d'Erasme et sa philosophie chrétienne, où il ne reconnaît pas celle de l'Évangile, mais entre les deux hommes, il y aura une longue trêve. Luther trouve bon de s'abriter derrière le renom d'Erasme, d'ailleurs, en grande partie à cause de l'éloge de la folie. Il lui écrit en avril 1524, « Ne publie pas de livre contre moi, je n'en publierai pas contre toi. » Mais Erasme sera acculé à intervenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour repousser l'accusation de lâcheté, pour sauver le christianisme de l'oppression luthérienne. Dans ce but, il fallait ruiner dans le luthéranisme ce qui en était l'originalité, l'affirmation de la totale perversion de l'homme qu'enseignait Luther, et la négation que l'homme put rien vouloir ni faire pour son salut. Et toute la question du libre arbitre, qui va empoisonner pour plusieurs siècles la théologie, est en cause. Et Erasme a parfaitement vu le problème. Et Henri VIII, qui avait poussé Erasme à intervenir, a été exaucé le 1er septembre 1524 par la publication d'une diatribe des libéraux arbitriaux dont je vous ai parlé. Le libre arbitre étant la force de la volonté qui rend l'homme capable de s'intéresser à ce qui intéresse son salut ou de s'en détourner. Erasme tentait de montrer que la doctrine luthérienne est contraire à l'Évangile. Dans sa diatribe, Erasme a développé les opinions qui opposent sur le libre arbitre. Il les départage à l'aide de l'écriture. Il dit « Luther donne tout à la grâce ». Mais on se rend compte qu'Erasme y voit une sorte d'injustice. Il l'écrit « C'est là restreindre la miséricorde de Dieu en un point pour la dilater en un autre ». En sévissant contre l'humanité en raison d'un péché étranger, Dieu serait cruel? En accablant l'homme de préceptes, impossible à observer, il serait plus inclément que Denis de Sicile. Si elle ne faisait pas renaître l'homme en une créature nouvelle, eh bien la grâce de la justification serait trop parcimonieuse. Depuis, comment ne pas affirmer à la fois sans incohérence que les justifiés sont agis par l'Esprit du Christ qui ne souffrent pas la compagnie du péché et qui ne font que pécher? Alors Erasme est assez dur, comme on voit si on comprend bien. Là. Si lui, Erasme, n'a pas l'intelligence de ce qu'est le Christ, il est erré loin du but, mais il aimerait qu'on lui apprenne. Quel esprit avait tant de docteurs puis le peuple chrétien qui n'eurent pas davantage cette intelligence? Ainsi, en croisant le fer contre Luther, eh bien Erasme aurait été fidèle à la vocation profonde qu'il poussait à travailler à la réforme de l'Église de l'intérieur. Et par cette réforme, il pensait transformer toute la société de son temps. Le retour à l'Évangile, le retour à la lecture des Pères de l'Église, le recours aux sources de la pensée et de la morale humaniste en étaient les voies royales pour lui. Il n'y a ni mysticisme ni austérité chez Erasme, c'est peut-être ce qui fait en partie sa faiblesse. Pourtant, il a écrit un ouvrage dans le sens de l'imitation de Jésus-Christ. Il a cru trouver la solution dans l'humanisme, et c'est la raison, sans doute, pour laquelle il aura en partie achoppé. Mais dans les générations qui montent, surtout celles qui suivront le Concile de Trente, il ne manquera pas d'humanistes catholiques. Et les jésuites en sont un grand exemple, pour le suivre et même le dépasser. Je tenais à terminer avec les jésuites chez lesquels j'ai fait mes études à Brébeuf et auxquels je dois beaucoup. Dans la lecture à la messe aujourd'hui, il est dit « Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, l'unité de l'Église, quoi. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. » C'est extrait de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4. À l'antienne de communion, on dit, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui. » Et lui avec moi. Je crois que Erasme avait compris tout ça.